La boussole IG. L'approche sucre lent versus sucre rapide, aussi binaire qu'inefficace et infondée, continue d'induire en erreur bien des mangeurs. L'indice ou index glycémique, IG, est au contraire une méthode fiable, bien plus simple qu'il n'y paraît, pour être et rester en bonne santé. De quoi s'agit-il? Comment ça marche? Voyons tout cela. Débarrassons-nous enfin de cette fausse dichotomie sucre rapide versus lent. Tous les sucres, quels qu'ils soient, passent dans le sang à la même vitesse. Ne les confondons toutefois pas avec les sucres simples et ceux dits complexes, une classification chimique tout à fait effective, mais amenée à disparaître elle aussi avec la notion d'IG. La différence entre les deux repose sur le niveau de complexité de leur structure chimique. Les premiers sont ces oses, saccharose, fructose, galactose, etc., composés d'une ou deux molécules et peu d'amidon, plus simples à décomposer par les enzymes que les sucres complexes à dégrader, dus à leur grande chaîne de molécules, principalement l'amidon et l'inuline, afin d'être transformés en sucre simple. Dispense de cours de physiologie. Nous ne passerons pas ici par la case physiologique, ayant fait ailleurs, pour nous concentrer et rester concis sur l'indice glycémique en pratique. Nous ne reviendrons donc pas en détail sur les mécanismes métaboliques en jeu, dans la gestion par l'organisme des sucres quels qu'ils soient, impliquant le pancréas et l'insuline, le glucose et la glycémie, etc. Nous ne nous aventurons pas non plus dans le monde des indices et autres charges, insulinique, orac, pral, qui gagnent à être connues pour qui n'en a encore pas entendu parler. Soulignons ici l'intérêt très limité et surtout biaisé de l'indice d'information nutritionnelle le plus répandu, Nutri-Score, au détriment d'autres bien plus pertinents et salutaires, comme Nova ou SIGA. De même, les recommandations officielles, PNNS, sont élaborées avec des biais divers et ne prennent toujours pas en compte l'impact de l'ultra-transformation et du raffinage alimentaire ô combien délétère. L'IG, un outil bien pratique. Il s'agit d'une méthode fiable pour classer les aliments contenant des glucides, que sont les fruits et certains légumes, frais et secs, dont les légumineuses, les amylacées et les féculents, les céréales, type blé moderne et ancien, avoine, maïs, riz, etc., et produits céréaliers, pain, pâtes, pizza, etc., les produits sucrés, gâteaux, biscuits, viennoises, riz, friandises, glaces, etc. Les vrais et faux sucres, sucres dits de table, miel, cassonade ou vergeoise, naturel ou artificiel, mélasse, sirops divers et variés, eux aussi naturels ou industriels, etc. Les produits laitiers, sauf le beurre et le fromage, certains alcools, les boissons sucrées, que les sucres soient naturellement présents, comme le jus de fruits, même frais et sans sucre ajouté, maison ou bio, ou ajouté, comme les sodas. L'indice glycémique correspond à la capacité d'un aliment contenant des glucides à élever la glycémie dans le sang pour 100 g d'aliments. L'IG est en lien avec la qualité d'un aliment ou d'une boisson consommée, tandis que la charge glycémique repose sur la quantité d'aliments ingérés par rapport à son IG. L'indice glycémique est mesuré en laboratoire, donnant lieu à des repères généraux plutôt que stricts, reportés dans un tableau ou référentiel d'indice glycémique. La variabilité des résultats s'explique par différents facteurs, tels que la maturation, la préparation et la cuisson des végétaux, ainsi que la qualité nutritionnelle de l'aliment testé et le laboratoire à l'origine des tests. Nous verrons aussi comment les associations d'aliments, la chronobiologie ou encore le degré de transformation alimentaire peuvent réduire ou au contraire élever l'IG d'un aliment ou d'un repas glucidique. L'IG bas est inférieur à 55, l'IG moyen à modéré entre 55 et 70, l'IG élevé 70 et plus, pour une référence de IG égale 100, c'est-à-dire du glucose pur ou du pain blanc. Amylose et amylopectine. Les glucides complexes peuvent être composés de types d'amidon différents, entre autres l'amylose et l'amylopectine. Le premier résiste bien mieux au travail des enzymes chargées de découper et de digérer les glucides que le second. Ce dernier est plus rapidement dégradé et digéré, donc plus glycémiant, faisant remonter plus fortement le taux de sucre dans le sang. De fait, les céréales, les féculents et les légumineuses riches en amylopectine ont un IG plus élevé que celles qui contiennent davantage d'amylose à l'IG bas, à modéré. Prenons l'exemple du riz basmati, riche en amylose et pauvre en amylopectine, repérable à sa couleur translucide, moins blanc quand il est sec que d'autres. Qu'il soit raffiné, blanc, semi-complet ou complet, son IG restera bas à modéré, sous réserve d'être cuit al dente et consommé en quantité raisonnable. Les autres riz, hormis le riz sauvage, à l'IG bas lui aussi, ont un IG modéré à élevé. Gélatinisation. L'amidon des céréales, lorsqu'il est trop cuit, devient un glucide simple, hyperglycémiant. Il se gélatinise. Comparé à un riz cuit juste ce qu'il faut à l'étouffer, façon indienne ou asiatique, et un autre cuit dans un grand volume d'eau et un peu trop longtemps. L'un a un aspect sec, l'autre pâteux. Avec une assiette de pâte de la cantine, très cuite et souvent recuite, donc gélatinisée à souhait, l'IG s'élève à vitesse grand V, sans parler de l'aspect peu appétissant, de la texture déplaisante et du goût passablement insipide. Les petits pains de hamburgers industriels sont aussi issus d'un processus de gélatinisation. Vous avez peu à mâcher, les enzymes à dégrader, le tout au détriment de votre glycémie. Plus la texture est molle, nécessitant peu de mastication, et plus l'IG grimpe en flèche. La mie de pain ou encore le moelleux d'un gâteau, qu'il soit maison ou industriel, ne sont autres que ce processus de gélatinisation à l'IG modéré à élevé, selon encore le degré de raffinage, donc la présence de fibres dans la farine utilisée, le thermostat de cuisson, l'association avec d'autres aliments, etc. Aussi est-il judicieux de réserver ces aliments pour l'occasion et de privilégier les biscuits secs type petit beurre, nature ou au chocolat, surtout s'il est noir. Amidon résistant. L'indice glycémique d'une pomme de terre consommée chaude, et plus encore réduite en purée, sera bien supérieur à celui d'une autre coupée en dés, si elle est mangée refroidie après avoir été cuite à la vapeur douce de préférence. Son amidon sera alors résistant, c'est son nom. Non seulement son IG sera abaissé, mais en plus, elle devient un probiotique, autrement dit un mets très apprécié par le microbiote intestinal. L'amidon résistant améliore la sensibilité à l'insuline, l'hormone de stockage des graisses. Il est hypoglycémiant et satiétogène, bénéfique pour le microbiote et plus généralement le côlon, en prévenant des pathologies dans cette zone. Toutes les céréales peuvent donner lieu à un amidon résistant, pâtes, riz, sarrasin, etc., dès lors que ces aliments sont cuits al dente et mangés refroidis. À propos de pommes de terre, essayez de les remplacer pour épaissir votre soupe par des légumineuses. Elle sera plus savoureuse et votre glycémie diminuée. Raffinage. Si le riz basmati riche en amylose à l'IG bas à modéré peut être consommé quasiment indifféremment selon son degré de raffinage, il n'en est pas de même pour les autres céréales. Le pain et les pâtes blanches à base de blé raffiné, donc quasiment dépourvus de fibres, ont un IG plus élevé que leur équivalent peu ou pas raffiné, type complet, intégral ou semi-complet. Fibres. Sachez que les fibres d'une copieuse portion de légumes au cours du repas sont une excellente idée pour abaisser la glycémie totale de votre repas. La matrice, à savoir deux aliments qui n'ont pas le même impact sur l'organisme et par extension sur la santé, bien qu'ils aient une composition strictement identique à partir du moment où ils ont une matrice, c'est-à-dire une mère, différente. Donc la matrice d'un aliment est préservée. Plus son IG l'est aussi. En effet, celui d'une céréale raffinée, par exemple, sera bien plus hyperglycémiante que sa congénère, non ou partiellement privée de ses fibres. Dans ce cas, l'arrivée de glucides se fait par palier et l'apport d'énergie en plateau. Ainsi, la glycémie reste stable dans la durée. Les fibres ont en effet la capacité, entre autres, de réduire non seulement la glycémie d'un aliment, mais aussi celle de l'ensemble du repas. Teneur en polyphénol. Comme les fibres, la teneur en polyphénol, autrement dit en antioxydants, d'un aliment aide à réduire son impact glycémique. Une patate douce, bien plus riche en composés phénoliques qu'une pomme de terre, un score des plus honorables en termes d'IG pour un féculent, plus précisément une amylacée. Elle a aussi plus de goût et pour les variétés orangées, plus d'éclat dans l'assiette. Une tasse de thé vert bue au moment du repas, sauf s'il est riche en fer, que les polyphénols du thé ont tendance à chélater et que vous en manquez. Donc cette tasse peut réduire l'IG d'un repas ainsi que le sucre sanguin. Transformation. À savoir découper cuisson. Les féculents, les légumineuses, les légumes et les fruits que vous faites cuire gagnent aussi à l'être de manière douce et brève, une cuisson vapeur sans autoclave, type cocotte minute, dont la haute température détruit en outre la plupart des micronutriments protecteurs. Cette manière de faire est importante pour maintenir ou réduire un IG, la transformation des végétaux aussi. Plus un légume sera coupé en très petits morceaux, plus encore s'il est réduit en purée ou pour un fruit en compote, plus l'IG s'élève. En jus, il le sera encore davantage, qu'il s'agisse de jus de légumes, même à l'extracteur, ou de fruits. Pour la simple raison que la matrice, ici encore, est ainsi partiellement, voire complètement altérée. Plus elle est, plus l'indice glycémique augmente. Rappelez-vous, plus c'est mou ou liquide, plus l'IG est élevé. Ultra-transformation. Nous ne nous attarderons pas sur les produits ultra-transformés dont nous avons parlé ailleurs. Rappelons simplement ici qu'ils ont généralement un IG élevé, souvent repérable à leur texture molle, ainsi qu'un indice de satiété globalement bas. Les aliments qui en sont la base, blé, pois, maïs, pommes de terre, etc., sont non seulement issus du cracking, un processus de fractionnement puis de recombinaison, et en général hautement chauffé, ce qui détruit à la fois la matrice et les micronutriments protecteurs, et notamment les fibres et les antioxydants. Arrêtons-nous sur les galettes de riz soufflées, un produit phare des rayons diététiques ou bio. Pourtant, le riz à partir duquel elles sont fabriquées a tout perdu, fibres, nutriments, etc., mais gagné en apport en sucre, même naturel. Le riz blanc, ayant à la base un IG élevé, il le devient ici encore plus. Ces galettes sont comparables en termes de process industriel, à savoir d'extrusion. Elles sont comparables aux céréales pour le petit déjeuner destiné aux enfants et adolescents, à la différence que les secondes sont en plus additionnées de sucre et quelquefois d'additifs. Sans gluten. Partie d'une alternative intéressante pour les personnes souffrant de maladies cœliaques ou d'hypersensibilité au gluten, la protéine forte du blé, l'offre de produits sans gluten peut avoir de sérieux effets pernicieux. Pour remplacer le blé, beaucoup contiennent toutes sortes de fécules, issues de céréales les plus glycémiantes, telles que maïs, riz, pommes de terre, d'amidon recombiné, voire d'additifs. Quoi qu'il en soit, il suffit de lire la liste des ingrédients, souvent effroyablement longue, pour réaliser que cette alternative n'est peut-être pas la bonne. Maturité des fruits frais. La plupart des fruits consommés entiers ont un IG bas, voire très bas, inférieur à 55. Toutefois, cet indice peut être variable suivant le degré de maturité. Par exemple, une banane tout juste mûre fera moins monter la glycémie sanguine qu'une autre très mûre, qui est molle et tachée. Notons que l'ananas frais et le melon affichent un IG modéré, la pastèque un IG plus élevé. Toutefois, sa teneur en glucides restant faible, la charge glycémique de ce fruit reste très acceptable, d'autant qu'il est rare de manger une pastèque entière. Fiez-vous à votre palais. Lorsque vous mangez goulûment une grande quantité de cerises de saison, comparé à une autre de framboise, vous ferez vite la différence en termes de teneur en sucre. Graisse et protéines. L'association d'un aliment à IG élevé verra son score sensiblement baisser s'il est accompagné d'une belle rasade d'huile d'olive et ou d'une portion de protéines. Les deux nutriments, en ralentissant la vidange gastrique, c'est-à-dire que l'estomac se vide après avoir mixé son contenu, modifient favorablement l'IG de l'aliment glucidique. Attention toutefois à éviter d'associer ce que la naturopathie appelle une protéine forte, telle que la viande rouge, avec un aliment riche en amidon, tel que les pâtes ou les pommes de terre. La digestion sera certes allongée, mais aussi probablement perturbée, avec une lourdeur digestive, des ballonnements, une malabsorption des nutriments, etc. Composés acides. Une pâte à pain préparée au levain offrira un IG moindre qu'une baguette de surcroît de pain blanc à l'IG élevé. De même, le vinaigre qui, en ralentissant la digestion de l'amidon, abaisse significativement le taux de sucre sanguin, entre 15 et 30%. Assaisonnez généreusement de vinaigre de cidre de qualité, sans sulfite ajouté vos crudités, et l'IG de votre repas s'en trouvera diminué. Le vinaigre est aussi un allié pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Les clés d'un repas à IG bas à modéré, en résumé. En toute simplicité et surtout avec bon sens, il s'agit de privilégier des aliments contenant des glucides riches en amylose, en fibres, en polyphénol et en composés acides, laissés entiers, cuits al dente, qui nécessitent d'être mastiqués plutôt que prémâchés, peu ou pas raffinés, consommés au sein d'un repas équilibré, de préférence sans sucre ajouté, et pour les desserts, agrémentez d'une épice magique, à savoir la cannelle, qui a le pouvoir de stabiliser la glycémie. Nous aurons l'occasion d'en reparler.